Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures, Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous, à la une de ce journal. Effondrement d'un immeuble hier mardi à Abidjan-Cocody-Palmeraie, 18 victimes dont des blessés et un décès certain, bilan provisoire donné hier par le commandant Conan Alban, chef des opérations du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Bagerville. Affaire maritime, un manuel de procédure pour harmoniser les pratiques et minimiser les risques d'erreur. Le document a été présenté lundi par Cérédo Célestin, le ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes. La page internationale nous conduira au Burkina Faso où des avocats sont en grève jusqu'au 8 juin prochain pour protester contre l'incarcération de maître Guy Hervé Cam. La revue des titres de la presse nous sera présentée par Mel Emmanuel. Et puis l'invité de la rédaction aujourd'hui sera Dr Germain Cramaux. L'économiste fera une analyse des retombées possibles du premier sommet Corée du Sud-Afrique qui prend fin ce mercredi 5 juin à Séoul. Sur le sujet, Dr Germain Cramaux répondra aux questions de Jean-Claude Comet. Un immeuble s'est effondré hier mardi dans la commune de Cocody-Riviera-Palmeraie après barrage. Alertés, les secours étaient sur place pour sauver les personnes encore coincées dans le bâtiment. Sur les opérations de sauvetage quelques instants après le sinistre, écoutons les précisions du commandant Conan Alban. Il est le chef des opérations du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Bagerville.
Il s'agit d'un effondrement d'un immeuble R plus 3 à usage mixte. Il y a trois niveaux en superstructure et un niveau en infrastructure. Nous avons été alertés et on nous a signalé provisoirement 18 victimes. Il faut noter que 16 victimes ont été déjà dégagées, blessées. Ouais, ces victimes sont vivantes, ont été prises en charge et évacuées au niveau de chute d'engrais. Nous procédons actuellement, après un périmètre de sécurité établi et puis consolider la structure du bâtiment, c'est-à-dire par des étayements avec l'unité spécialisée, nous procédons maintenant à la recherche des deux autres victimes. Il faut dire qu'on a déjà aperçu déjà une victime décédée, mais qui est déjà bloquée au niveau des porteurs. Donc nous procédons déjà au dégagement de la victime et procédons de manière simultanée à la recherche des autres victimes. Il faut dire qu'il y a une unité de sauvetage et déblaiement, une spécialité du groupement des sapeurs-pompiers militaires qui est outillée à la matière avec une unité cynophile, c'est-à-dire une unité avec les chiens qui vont essayer de, ensemble, nous permettre d'essayer de rechercher, localiser des éventuelles victimes. Et donc nous sommes au stade de dégagement des deux victimes qui ont été déjà aperçues et pour pouvoir les dégager et puis procéder des recherches éventuelles sur les différents niveaux.
Le commandant Conan Alban, chef des opérations du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Bagerville. Il nous donnait à l'instant un bilan provisoire au moment des opérations de sauvetage des victimes suite à l'effondrement hier d'un immeuble à Cocody-Riviera-Palmeraie après barrage. Et puis, la Côte d'Ivoire accueille en ce moment le troisième sommet panafricain des jeunes. Ces derniers venus des 54 pays du continent sont réunis autour du thème « Un avenir panafricain inclusif ». La ZLECAF et le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, au service de la jeunesse. Organisée par le G54 Afrique, la première journée de ce sommet, le mardi 4 juin à Abidjan-Yopougon, a été marquée par des communications suivies d'échanges. C'est ce que nous dit ici Jean-Claude Mabéa.
La première journée de ce troisième sommet panafricain des jeunes s'est ouverte par la session spéciale animée par le conseil technique du ministre de la Communication et vice-président du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement, le député Mbassou Ouattara Abbas. Sa communication a donc porté sur les différentes étapes d'une session parlementaire.
Les contours d'une session parlementaire, c'est une expérience à vivre parce qu'elle vous ouvre sur certaines réalités dans la la vie de nos pays. La prise des lois, c'est une action tellement importante parce qu'elle impacte après la vie de tous les citoyens. Donc il ne faut pas que nous regardons en cela une promotion sociale, mais comprendre qu'être parlementaire est un sacerdoce. On vient pour servir la population et non se servir, comme on le dit traditionnellement.
Et la seconde communication relative aux enjeux de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, a été faite par son chef de projet chargé du commerce numérique, Zou Boli Ange Désiré.
C'est un accord qui envisionne de faire tomber tout ce qui est barrières douanières, de réduire jusqu'à l'élimination les barrières non tarifaires, constituant un principal frein donc à l'intensification du commerce ici en Afrique, afin de bien sûr favoriser ce commerce-là comme un facteur d'intégration pleine. Aujourd'hui, nous dénombrons 54 pays signataires et 47 ratifications.
À noter que les journées du mardi et mercredi sont consacrées à des travaux en atelier.
Direction Boaké, où la première édition de la journée carrière des personnes en situation de handicap dénommée Handicapable s'est tenue le samedi 1er juin dernier. Sur cette activité initiée par la coordination des associations des personnes en situation de handicap du district autonome de la vallée du Bandama, la correspondance de Joseph Assalé.
Cette journée carrière des personnes en situation de handicap, dénommée handicapable, vise un triple objectif, selon Koulibaly Daouda, le président de la coordination des associations des personnes handicapées du district autonome de la vallée du Bandama.
Le premier objectif, c'est de faire la promotion des créations des savoir-faire des personnes handicapées. Deuxième objectif, c'est de vendre cette création et ces talents qu'ils ont. Et le troisième objectif, c'est de veiller à l'application du décret que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a signé le 9 mai 2018 pour pouvoir embaucher les personnes en situation de handicap à l'emploi. À 100 employés, il faut prendre 1% une personne en situation de handicap. À plus de 100 employés, il faut pouvoir prendre 2% des personnes en situation de handicap.
Ouattara Ibrahima de la Direction régionale de la protection sociale de Boaké dresse le tableau suivant.
Il faut constater qu'il y a une grande marge qui est encore en dehors de la formation professionnelle et en dehors de l'emploi. Et certains sujets doivent changer de paradigme sur le handicap. Le handicap, ce n'est pas une fatalité.
Éclairci cependant dans cette grisaille a rassuré Atta Ebe Constant, le directeur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage de Boaké.
Aujourd'hui, nous avons des élèves en situation de handicap qui suivent des formations professionnelles dans nos écoles.
Notons que des expositions d'art, de couture, de produits médicamenteux confectionnés par les personnes handicapées ont meublé cette journée carrière handicapable. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Le manuel de procédure édité par le ministère délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes présenté le lundi 3 juin par le ministre Cyrido Célestin, c'était lors de sa visite de travail à la région maritime Est de Grand Bassam, ceci dans le cadre de sa tournée aux arrondissements maritimes débutée le 23 avril dernier par la ville de San Pedro. Là-dessus, les détails avec Jourmélène Bitti.
Lors de cette visite du travail, le colonel Moulaye Kone, directeur régional maritime Est, n'a pas manqué d'égrener quelques difficultés auxquelles ils sont confrontés.
Il s'agit d'un conflit de compétences et en rapport avec le domaine public maritime. Nous avons soumis ce problème à monsieur le ministre parce que depuis près de 2 ans, nous avons du mal à faire le recouvrement de cette redevance. Les difficultés, c'est l'acquisition de matériel naval, de moyens de dissuasion.
Le ministre Cyrido Célestin a insisté sur l'appropriation par les agents des affaires maritimes du manuel de procédure pour une affaire maritime performante.
Ce document doit être considéré et utilisé comme une boussole, un bréviaire, un guide, non seulement pour harmoniser les pratiques ou opérations, mais aussi pour minimiser les risques d'erreur.
Le ministre en charge des affaires maritimes s'est saisi de l'occasion pour annoncer les avancées notables pour son ministère.
Premièrement, la signature par le président de la République de l'organigramme de notre département ministériel consigné dans le décret 2024-274 du 8 mai 2024 portant organisation du ministère délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes. L'érection des antennes maritimes d'Assini, de Bergerville et de Fresco en arrondissement.
La présentation des procédures des services déconcentrés du ministère délégué aux affaires maritimes était aussi au menu de cette visite du travail.
Également dans le fil de l'actualité, les activités de renforcement de capacité des acteurs du secteur du tourisme dans le district du Bassa-Sandra ont été lancées lundi à San Pedro. Objectif, maintenir la qualité de l'offre touristique après la CAN 2024 afin de promouvoir la destination sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Kofi Benson nous en dit plus.
Maintenir la qualité de l'offre dans le secteur du tourisme dans le district du Bassa-Sandra nécessite des dispositions, dont la formation, selon Kofi Suzanne, directeur régional du tourisme à San Pedro.
Nous savons que la qualité ne peut être obtenue sans la formation. Donc, on a un programme de formation sur toute l'année. Nous attendons que les hôteliers, les restaurateurs adhèrent à ces formations, qu'ils comprennent le sens de la formation, aussi le sens de la qualité de l'offre et qu'ils comprennent que si leurs agents sont bien formés et que l'offre est de niveau, la destination San Pedro sera forcément une destination privilégiée en Côte d'Ivoire.
Le groupe Essor assure la formation de ses acteurs de l'hôtellerie et de la restauration à San Pedro depuis plusieurs années. Pour son directeur général Kaku Esso, la formation est la clé du succès après la CAN, tout comme avant la CAN.
Si vous devez vous former par le biais du fonds de développement de la formation professionnelle, il faut que vous soyez une entreprise constituée en payant donc les impôts régulièrement. En tant que privé, vous sortez l'argent pour vous former. Et puis aussi, nous avons des projets collectifs qui peuvent regrouper les jeunes et chercher une institution pour financer ces formations. Quand un individu est bien formé, on a gagné. Celui que nous sommes en train de faire, c'est une formation post-CAN, parce que la flamme doit être maintenue. C'est vrai que le temps ne m'a pas reconnu en tant que tel, mais nous avons été les acteurs de la notion de la CAN d'hospitalité. Je suis très satisfait, surtout pour ce qui s'est passé sous notre initiative. On a eu à débourser près de 60 à 80 millions dans le cadre de ces formations, puisqu'on a offert des formations gratuites à San Pedro ici et puis à Korogo. Et c'est ça qui a créé l'engouement.
Ce sont 82 agents issus de 53 entreprises qui bénéficient de cette formation de 2024. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Hors de nos frontières au Burkina Faso voisin, les avocats sont en grève jusqu'au 8 juin prochain. Un arrêt de travail de l'ensemble de la profession est annoncé par le bâtonnier de l'ordre pour protester contre l'incarcération et l'inculpation de Maître Guy Hervé Cam, accusé notamment de complot contre la sûreté de l'État, rapporte l'AFP. Passons à la revue des titres de la presse et c'est tout de suite avec vous, Mel Emmanuel. Bonjour.
Bonjour Sonia, bonjour à toutes et à tous. La ville d'Abidjan a connu une journée noire hier avec deux événements malheureux. D'une part, l'effondrement d'un immeuble dans la commune de Cocody et d'autre part, un policier mort écrasé par un car dans la commune d'Adjamé. Certains journaux parus aujourd'hui se disputent l'exactitude du bilan de l'effondrement de l'immeuble. Là-dessus, alors que notre voix écrit « Un immeuble s'affaisse à Cocody Riviera Palmeray, un mort », le rassemblement parle plutôt de deux morts et 16 blessés. L'encadré de Le Jour Plus sur la journée d'hier abonde dans le même sens que celui de Le Rassemblement, à savoir 2 morts et 16 blessés pour ce qui est de l'effondrement de l'immeuble. Aussi, il fait état de ce qu'un policier s'est fait écraser par un car dans la commune d'Adjamé, information corroborée par Soir Info. Quant à Fraternité Matin, l'on pourra découvrir l'histoire de l'immeuble qui s'est effondré. Changeons d'humeur et de sujet, quittons la Côte d'Ivoire et partons en Corée du Sud pour parler de coopération bilatérale avec le continent africain. Hier s'est ouvert le premier sommet Corée du Sud-Afrique à Séoul, la capitale sud-coréenne, sommet auquel prend part le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Intelligence artificielle, économie verte, transition digitale, tels étaient les sujets abordés durant ce sommet selon Fraternité Matin qui nous apprend qu'il s'est agi pour le chef d'État ivoirien de faire un grand plaidoyer. Il a aussi partagé sa vision pour un partenariat gagnant-gagnant, fait savoir le matin. S'intéressant au volet financier de cette coopération, Le Jour Plus, Barça 1, premier sommet Corée-Afrique, Ouattara rentre à Abidjan avec 600 milliards de francs CFA. Parlons toujours de coopération bilatérale, cette fois-ci parlementaire entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. En marge de la 81e session du comité exécutif de l'UPA à Abidjan, importante rencontre entre Big Togo et le président de la Commission africaine du Parlement égyptien affiche Soir Info au tableau de ses unes. Cette coopération parlementaire est pour Abidjan et le Caire une volonté de renforcer leurs relations à s'en référer à notre voix. Un dernier sujet pour refermer cette revue des titres de la presse de ce mercredi 5 juin, c'est du football. Dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, prévue pour ce vendredi 7 juin, la Côte d'Ivoire sera opposée au Gabon. Et le jour plus d'écrire à ce sujet, les éléphants à Korogo aujourd'hui, plusieurs coups du marteau attendus. Le ton est identique du côté de la Nouvelle Alliance qui affiche les éléphants à Korogo pour dompter les panthères. Merci à toutes et à tous, à vos journaux et bonne lecture.
Merci à vous, Mel Emmanuel. Prenons rendez-vous dans l'édition de 8h, toujours pour la revue des titres de la presse. Nous en arrivons à l'invité de la rédaction qui ce jour est Dr Germain Cramaux, enseignant en économie et chercheur à la CAPEC, cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES. Dr Germain Cramaux analyse les retombées possibles du premier sommet Corée du Sud-Afrique démarré hier mardi 4 juin et qui prend fin ce mercredi 5 juin à Séoul. Sur le sujet, Dr Germain Cramaux est interrogé par Jean-Claude Comé.
Dr Germain Cramaux, bonjour.
Et bonjour, Monsieur Comé.
La Corée du Sud, pays asiatique, reçoit une cinquantaine de pays africains. C'est un premier sommet entre la Corée du Sud et l'Afrique. Pourquoi la Corée du Sud aussi se met dans la danse des échanges avec l'Afrique?
Effectivement, la Corée du Sud se met dans la même dynamique que les autres pays occidentaux en renforçant ses relations avec le continent africain. Donc, il s'agit de plus en plus de diversifier ses partenaires et en vue de s'implanter durablement sur le continent africain.
Alors, si on vous demandait de présenter la Corée du Sud en termes économiques, que dire?
Oui, la Corée du Sud est une puissance économique, surtout en termes d'innovation. Donc, c'est un pays qui innove beaucoup, pour lequel nous avons beaucoup à apprendre, surtout au niveau des technologies.
Et elle est considérée comme la 10e économie mondiale. Justement, la question se pose aussi au niveau de la démarche. Hein. Un pays qui rencontre plusieurs pays d'un continent, on le voit avec des sommets États-Unis-Afrique, Chine-Afrique, Turquie-Afrique, France-Afrique. Pourquoi ces pays développés ont une vision donc globale avec donc le continent? Pourquoi cette approche-là?
Oui, déjà, je pense que d'abord, en termes de minimisation de coûts, déjà, s'il faut organiser un sommet pour chacun des 54 pays, cela reviendrait un coût très élevé. Et puis, de plus en plus, l'Afrique essaie de parler d'une seule voix avec la mise en place de la zone de libre-échange continentale, vu qu'il n'y aura plus de barrières tarifaires entre ces pays. Et déjà, la Corée entretient des relations bilatérales avec chacun de ces pays déjà. Donc, je pense qu'ils veulent aller au-delà de ces relations bilatérales en essayant plus ou moins d'avoir une vue globale des échanges avec l'Afrique.
Que gagne donc la Corée du Sud à organiser un tel sommet concrètement?
La Corée du Sud gagne beaucoup déjà. L'Afrique, c'est un marché potentiel et c'est un pays qui innove beaucoup. Donc, ce pays a besoin de marché. Et l'Afrique, de plus en plus, avec l'émergence de cette nouvelle classe moyenne, il y a un pouvoir d'achat qu'il va falloir capter. Donc, l'Afrique devient de plus en plus un continent très attrayant pour ces pays.
Mais quand nous parlons de l'Afrique, nous parlons aussi de sa richesse minière. Est-ce que ce n'est pas tout cela aussi qui attire ces pays puissants, au nombre desquels la Corée du Sud?
Oui, ces pays ont besoin de matières premières et l'Afrique est une source de matières premières. Donc, ces pays essaient de plus en plus d'avoir des relations privilégiées avec les pays africains. De plus en plus, c'est un continent où les pays ont des croissances assez élevées. Donc, il est de plus en plus urgent que ces pays puissent se tourner vers l'Afrique afin de pouvoir tirer profit de ces opportunités.
Alors, que gagne l'Afrique donc à avoir un partenaire comme la Corée du Sud?
L'Afrique gagne beaucoup et je pense que pour les pays africains, ils doivent aller au-delà des gains économiques et surtout viser plutôt les gains au niveau culturel. Et la Corée du Sud est un pays qui a été colonisé, qui est aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la 10e puissance mondiale. Donc nous étions au même niveau que ce pays dans les années 60. Et aujourd'hui, ce pays se retrouve parmi les grands pays du monde. Nous avons beaucoup à apprendre au niveau de la culture et je pense que c'est à ce niveau-là que l'Afrique doit essayer de voir comment tirer le meilleur profit de la culture de ce qui a fait le déclic dans ces pays.
Vous l'avez dit, hein, des pays comme la Côte d'Ivoire dans les années 60-80 avaient à peu près le même PIB que la Corée du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un tel pays soit aujourd'hui à ce niveau-là?
Et je pense que nous avons beaucoup à apprendre de ces pays. Et surtout, ces pays ont fait le pas grâce à un leadership transformationnel. Donc les leaders ont tracé le chemin, ont posé, je peux dire, les jalons qui ont permis à ces pays de plus ou moins d'être des pays assez développés. Donc nous avons beaucoup à apprendre au niveau du leadership, nous inspirer de comment ces pays sont arrivés à passer d'un pays en développement à un pays au stade de pays développé, et aussi nous inspirer beaucoup de leur culture.
Un aspect comparatif donc des économies africaines, notamment l'économie ivoirienne et l'économie sud-coréenne. Aujourd'hui, c'est un pays, pour parler de la Corée du Sud, hyper développé au niveau de l'industrie, pratiquement 25% de son PIB, comparativement à la Côte d'Ivoire qui est pour l'instant essentiellement un pays agricole. Pour vous, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre d'eux, justement, en termes de cheminement?
Et en termes de cheminement, nous pouvons beaucoup apprendre, comme je l'ai dit d'abord au niveau du leadership, de deux, au niveau des, je peux dire, des ressources humaines. Il faut une formation adaptée de qualité.
On a noté un peu une présence dans les années 60-80 donc de l'État dans les investissements, avec une orientation dans l'industrialisation. Est-ce que pour vous aujourd'hui c'est un chemin à suivre? Est-ce qu'on doit revenir à cet état des faits?
Je pense qu'il faut combiner les deux approches. Aussi bien aujourd'hui, notre PND est tiré par le secteur privé, mais il y a les domaines pour lesquels le privé a besoin que l'État trace d'abord les sillons. L'État ouvre les voies pour que le secteur privé puisse s'engouffrer. Donc nous pensons qu'il est indispensable aujourd'hui que l'État joue son rôle. Il y a des secteurs pour lesquels le secteur privé ne trouve pas rentable. L'État peut d'abord tracer les voies et ensuite le secteur privé pourra s'y engouffrer. Donc effectivement, vous avez parfaitement raison. L'État doit jouer un rôle important dans ce processus d'industrialisation en fixant les prix et animer la moyenne, etc.
Docteur Germain Carmo, je vous remercie.
Merci, monsieur Comé.
Aujourd'hui, invité de la rédaction, l'économiste Germain Carmo était avec Jean-Claude Comé. C'est ce qui referme les pages de ce journal, dont voici le rappel de l'essentiel. Effondrement d'un immeuble hier mardi à Abidjan-Cocody. 18 victimes, dont des blessés et un décès certain. Bilan provisoire donné hier par le commandant Conan Alban, chef des opérations du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Bingerville. Et puis au Burkina Faso, des avocats en grève jusqu'au 8 juin prochain pour protester contre l'incarcération de maître Guy Hervé Cam. Merci de votre attention. À 8h, un autre journal.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.